Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous parlons depuis un certain temps de l'Évangile selon Paul et nous avons examiné un certain nombre d'aspects de cet Évangile. Nous avons entrecroisé et chevauché, et c'est ainsi que ce doit être. Il y a une composante de l'Évangile selon Paul, l'Évangile selon les autres apôtres, l'Évangile selon Jésus, l'Évangile de Dieu et l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile du salut. Il y a une composante qui ne peut être ignorée et bien entendu, Paul en fait un sujet majeur. C'est la souveraineté de l'Évangile. Il est dispensé. La puissance de l'Évangile, l'œuvre salvatrice de l'Évangile selon la volonté de Dieu. Non seulement la justice descend d'en haut, comme nous l'avons appris, mais la foi vient d'en haut, la conviction vient d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui accorde la repentance. C'est la foi elle-même qui est un don de Dieu. Tous les éléments du salut viennent du ciel. Aucun d'eux n'émane de nous par notre volonté, nos œuvres, notre intuition, nos bonnes intentions. Nous sommes des bénéficiaires du salut qui nous est accordé dans tous les sens par la grâce souveraine de Dieu. Maintenant, Paul clarifie ce point dans Éphésiens 1. Alors commençons par là. Éphésiens chapitre 1. Nous allons parcourir un certain nombre de passages pour vous aider à comprendre l'aspect souverain du salut et comment la responsabilité humaine intervient. Chaque fois que je tiens des conférences de par le monde et que nous avons une session de questions-réponses, une des questions inévitables est « Comment devons-nous harmoniser la souveraineté divine et la responsabilité humaine ?» Comment devons-nous comprendre que le salut relève de la volonté de Dieu et du choix de Dieu, du dessein de Dieu, du timing de Dieu et en même temps rendre l'homme dans un sens responsable de ce qui arrive? C'est la question inévitable. Je voudrais vous dire que vous pouvez être tranquille si cette question trotte dans votre esprit. Vous n'obtiendrez pas de réponse satisfaisante dans cette vie. Alors, votre réconfort doit venir dans la question. Mais si je peux vous aider un peu, permettez que j'aggrave encore plus votre incommodité. Si je posais une simple question comme « Qui a écrit l'Épître aux Éphésiens ?» Quelle est la réponse? Maintenant, j'ai entendu deux réponses. J'ai entendu Dieu et Paul. Quelle est la bonne réponse? Les amis, c'est quelque chose de très basique là. Qui a écrit l'Épître aux Éphésiens? Vous n'arrivez pas à répondre simplement à la question. Vous pouvez dire Paul, mais vous devez compléter votre réponse. Est-ce le vocabulaire de Paul? Oui. Est-ce la pensée de Paul? Oui. Est-ce le raisonnement de Paul? Oui. Pourtant, le Saint-Esprit est l'auteur qui a ordonné chaque mot. Donc, vous ne pouvez même pas répondre à la simple question de savoir qui a écrit un livre dans la Bible. Vous ne pouvez pas le résoudre sans faire attention. Ce n'était pas une dictée mécanique. C'est le cœur, la pensée, l'âme, le vocabulaire, l'expérience de Paul, et pourtant chaque mot vient du Saint-Esprit. Si je puis vous poser une autre question, qui vit votre vie chrétienne? Qui? C'est une question basique. Allons, vous le faites tous les jours. Qui le fait? Vous dites, eh bien, c'est moi. C'est une réponse beaucoup trop simple. Si vous vivez la vie chrétienne, est-ce vous ou le Saint-Esprit? Regardez, vous devez éviter de récolter le crédit pour les bonnes choses. Et vous ne pouvez pas blâmer le Saint-Esprit pour les mauvaises choses. Alors qui le fait? Vous voyez, vous avez le même dilemme. Laissez-moi vous aider. L'apôtre Paul dit ceci, « Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Donc, il ne comprenait pas non plus. C'est la réalité. Maintenant, c'est comme essayer de dévisser ce qui ne peut l'être. Vous ne pouvez vraiment pas résoudre ces tensions divines. Si nous parlons de la doctrine de la sécurité du chrétien qui stipule que nous sommes en sécurité en Christ, vous ne pouvez pas en parler sans évoquer d'autre part la persévérance des saints. Nous entrerons dans la gloire si nous persévérons dans la foi. Toute doctrine majeure concernant le salut dans l'Écriture et d'autres au-delà du salut comprennent un paradoxe apparent qui ne peut être humainement résolu. C'est l'une des preuves que Dieu est l'auteur de la Bible et non les hommes. Autrement, il aurait éliminé tous ces paradoxes insolvables. Ainsi donc, je ne fais que répandre davantage une des confusions afin que vous compreniez qu'elle ne se limite pas à une question de souveraineté et de responsabilité humaine. Il y aura toujours ce type de tension que nous comprendrons un jour quand nous connaîtrons tel que nous sommes connus dans la présence de Dieu. Mais nous avons de sérieuses limites dans ce monde avec notre cerveau pusillanime, martelé, déconnecté, étroit. Alors, vous devez être confortable avec cette question et je vais vous y aider ce matin. Regardons Éphésiens 1 et je veux vous amener au verset 3. Je le lis. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Est-ce clair? Pourquoi êtes-vous sauvés? Parce que vous avez assez d'intelligence pour croire l'Évangile? Non. Parce que Dieu, dans sa grâce, vous avait choisi avant la fondation du monde. L'objectif final de ce choix est que vous soyez saints et irréprochable devant lui. C'est la justice imputée de la justification. C'est par son amour, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 5, qu'il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs. Tout ceci selon la bienveillante intention de sa volonté afin que toute la gloire et toute la louange lui soient rendues. Et c'est repris dans ce long paragraphe du verset 3 au verset 14. Tout cela, selon le verset 12, pour servir à la louange de sa gloire. Tout cela selon le verset 14, pour servir à la louange de son peuple. Tout cela selon le verset 6, pour servir à la louange de la gloire de sa grâce. Tout le plan du salut doit donc être compris comme étant l'œuvre d'un dessein divin, conçu avant la fondation du monde. Dieu avait déterminé qui serait sauvé. Leur nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. L'agneau, qui avait été lui-même immolé avant la fondation du monde selon l'intention divine. Matthieu 24, 34. Un si beau verset dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Bien, l'apôtre Paul avait compris ceci. Il avait compris les paroles de Jésus dans Jean 15. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Voici la grande doctrine de la prédestination, la doctrine de l'élection. Elle fait face à beaucoup de résistance. Haïe par certains, elle est rejetée. C'est l'une de ces doctrines inacceptables pour des gens habitués à vivre dans la démocratie et à qui on dit que la vie doit se mener selon son libre arbitre et ses choix personnels. Les gens qui vivent dans les monarchies ont une meilleure compréhension du pouvoir souverain et de l'autorité sur leur vie. Ceux de nous qui avons été élevés dans cette grande république, cette grande démocratie, sans précédent dans l'histoire du monde, jusqu'à la fondation de notre nation, pensons que nous devons faire nous-mêmes nos choix. Nous n'avons jamais vécu sous un souverain. Bien. Quand vous venez dans le royaume de Dieu, vous vivez sous l'autorité d'un souverain. Et le souverain a tout déterminé. C'est par sa volonté que nous deviendrons saints, irréprochables, et que nous nous tiendrons devant lui dans la perfection, justifiés. Nous sommes adoptés comme fils selon son dessein prédestiné, tout ceci suivant l'intention bienveillante de sa volonté. Le langage de Paul du verset 3 au verset 6 est irréfutable. C'est par sa volonté que nous avons la rédemption. C'est par sa volonté que nous avons reçu le pardon pour nos offenses au verset 7. C'est par sa volonté qu'il nous a comblés de tout ceci. C'est par sa volonté, verset 9, qu'il nous a révélé la bienveillante intention de ce qu'il a prévu pour nous dans le futur. En d'autres termes, il nous a donné dans les Écritures une pleine compréhension de notre espérance future. Ce qui nous attend, l'héritage qu'il mentionne au verset 11 est le résultat de notre prédestination selon son dessein. Et ceci continue jusqu'au verset 14, l'héritage à venir. Tout, depuis l'élection à la glorification, tout ce qui intervient au milieu, la justification, la sanctification, sont effectués selon la volonté et son plan divin. C'est aussi inéluctable dans le 8e chapitre de Romains. Regardez Romains 8, une minute. Et ce n'est qu'une esquisse de l'introduction. Je voudrais en une minute vous faire lire les textes que vous n'avez peut-être pas encore vus sous cet angle. Verset 29 de Romains 8 dit, je le lis, « Ce qu'il a connu d'avance ». La préscience ne signifie pas que Dieu connaît les choses à l'avance, mais plutôt que Dieu prédétermine une chose avant. Car ce qu'il a prédéterminé, le mot « connaître » peut avoir une connotation d'intimité. Adam connut sa femme et elle enfanta. Ceci ne signifie pas qu'il savait qui elle était. Ceci signifie qu'il avait une relation intime avec elle. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix et je les connais ». Cela ne veut pas dire qu'il savait qui elles étaient, mais qu'il avait une relation intime avec elles. C'est une relation d'intimité prédéterminée que Dieu a planifiée, et à cause de cela, il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et le verset 30 dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » La prédestination, l'appel effectif au salut, la justification, la glorification. Dans le 6e chapitre de Jean, c'est, comme nous l'avons dit l'autre jour, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi, je le recevrai, le garderai, et je le ressusciterai au dernier jour. Je ne perdrai aucun d'eux. » C'est ainsi qu'il faut comprendre cette grande doctrine de la prédestination qui fait partie de la théologie de Paul, et elle apparaît aussi dans plusieurs autres passages. Maintenant, la question sur laquelle je vous invite à réfléchir avec moi ce matin, nous verrons combien de temps cela va nous prendre. La question est, la vérité de l'élection divine et souveraine élimine-t-elle la volonté de l'homme? La vérité de la grâce divine souveraine, de la prédestination divine souveraine et de l'élection qui se trouve inéluctablement dans la Bible, élimine-t-elle la volonté humaine? C'est la grande question. Maintenant, pour nous aider à prendre un bon départ avec l'apôtre Paul sur ce sujet, je voudrais que vous retourniez à un ancien prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe. Pouvez-vous ouvrir votre Bible dans Ésaïe chapitre 10? Ésaïe chapitre 10. C'est une critique populaire, bien sûr, pour ceux d'entre nous qui enseignent la théologie biblique. C'est un sujet harcelant pour ceux que la doctrine de la prédestination, de l'élection souveraine offense. Ceux qui nous jugent coupables de soustraire la liberté et la volonté humaine. Au fil des ans, j'ai parlé à beaucoup de pasteurs qui pensent qu'enseigner cette doctrine enlève la passion pour l'évangélisation. Cela rendra les fidèles indifférents vis-à-vis des perdus. Bien, nous avons déjà appris, n'est-ce pas, que Paul dit dans 2 Corinthiens 5 « Ma vie est vécue pour une chose, elle est dirigée et contrôlée par l'amour de Christ pour moi. Et ce n'est pas que pour moi qu'il est mort, mais aussi pour tous ceux qui sont morts en lui et par conséquent. » Je suis un ambassadeur de cet évangile glorieux et je prêche, consacrant ma vie au ministère de la réconciliation. Cette doctrine avait donc eu aucun effet négatif sur sa passion. En fait, sa passion pour l'évangile et la prédication de l'évangile aux perdus l'a conduit jusqu'au martyre. Mais l'accusation porte sur le fait qu'il n'est plus nécessaire d'évangéliser si nous disons que c'est l'œuvre de Dieu. Alors, commençons à comprendre ceci dans les paroles d'Ésaïe, dans un cadre plutôt unique. Chapitre 10 au verset 5. Malheur à l'Assyrien, malheur à l'Assyrien. Le jugement, la damnation, la malédiction, la colère divine va frapper l'Assyrien. L'Assyrien sera jugé par Dieu. Malheur à l'Assyrien. Puis vient cette identification étrange. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, la massue dans sa main. C'est l'instrument de ma fureur. C'est une affirmation très, très étrange. L'Assyrien est présenté ici comme le bâton de Dieu dont Dieu se servira de ses mains pour déverser son indignation contre Israël apostat. l'Assyrien est l'instrument de jugement de Dieu contre l'Israël apostat. Dans ce passage, Dieu mandate l'Assyrien d'agir souverainement comme le destructeur d'Israël. Verset 6. Je le lâche contre une nation impie, c'est-à-dire Israël. Je le dirige contre le peuple qui mérite, les Juifs en Israël, pour qu'ils se livrent au pillage et fassent du butin, pour qu'ils le foulent aux pieds comme la boue des rues. C'est un décret divin que Dieu va amener, une invasion assyrienne sur le royaume d'Israël. Maintenant que je vous dise quelque chose. Ceci n'a rien à voir avec une intention de la part de l'Assyrie. Dieu n'avait pas demandé son consentement à l'Assyrie. L'Assyrie n'avait pas planifié cet acte. Voyez-le au verset 7. Mais il n'en juge pas ainsi. L'Assyrie n'avait aucune intention d'être l'instrument de Dieu dans la destruction d'Israël. L'Assyrie n'avait aucun intérêt à agir comme un agent de Jéhovah. L'Assyrie n'avait aucune relation avec le Dieu vrai et vivant. Elle n'avait pas de tel plan à cœur, selon le verset 7. Au contraire, son plan était de détruire et d'exterminer plusieurs nations. Car il dit, « Mes princes, ne seront-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? Ou encore de Hamath comme d'Arpad? Ou encore de Samarie comme de Damas? Ils ne s'intéressent plus à détruire Israël, la cité capitale de la Samarie, pas plus qu'aucune autre nation. De même que ma main a su trouver les royaumes des faux dieux, dont les statues dépassaient celles de Jérusalem et de Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses faux dieux, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images ? » En d'autres termes, l'Assyrie ne fait pas de discrimination. Ils sont heureux de détruire toutes les nations environnantes. Ils n'ont aucun intérêt particulier sur Israël. Mais Dieu va prendre le contrôle de l'Assyrie et l'utiliser comme le bâton de son jugement pour la destruction du royaume du Nord. Jugement dont, en passant, ce royaume ne s'est jamais remis. Et pourtant, cela ne donne pas à l'Assyrie une position privilégiée devant Dieu parce que nous lisons au verset 5. Malheur à l'Assyrien. Dieu utilise littéralement une nation comme bâton de jugement sans son consentement. Elle sert les desseins de Dieu, mais elle sera maudite, jugée et condamnée. Verset 12. Mais alors, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Waouh ! Ce que nous avons ici, c'est la souveraineté de Dieu agissant par l'entremise de l'Assyrie. Pourtant, l'Assyrie sera tenue entièrement responsable de ses actes. C'est mettre côte à côte la souveraineté divine et la responsabilité humaine. L'Assyrie est hautaine, car elle dit « C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai bousculé les frontières des peuples, je les ai dépouillés de leurs trésors et, comme un puissant, j'ai fait descendre ceux qui siégeaient, etc. » Et ma main a su trouver, comme on nie la richesse des peuples, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un pépiment. En d'autres termes, comme s'il pillait des nids d'oiseaux. La hache se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le lève, comme si la massue soulevait celui qui n'est pas du bois. En d'autres termes, ceci impute la puissance au bâton plutôt qu'à celui qui le manie. Dieu dit « Je poursuivrai l'Assyrien, je le détruirai, je consumerai et je dévorerai. » Verset 18 « J'exterminerai totalement la gloire de sa forêt et de son verger. » Etc. etc. Comment expliquez-vous que l'Assyrie n'a pas le choix quant à ce qu'elle va faire à Israël? Et pourtant, elle est entièrement tenue responsable pour les atrocités qu'ils ont commises en Israël sous Dieu. Écoutez, je vous assure que vous devez vous familiariser à ce dilemme. La Bible ne nous donne pas d'explication. Elle nous donne aucun argument philosophique. Dieu, comment peux-tu utiliser cette nation comme un instrument pour implémenter ta sainte justice et ensuite te retourner et les détruire pour des péchés qu'ils ont commis dans le process? Allons dans Jean chapitre 3. En passant, le savons-nous, le juge de toute la terre, ne rendra-t-il pas quoi? La justice. Allez dans Jean 3. Je veux vous le montrer. C'est tellement important. Il y a un homme, membre des pharisiens appelé Nicodème, dirigeant des Juifs, le dirigeant des Juifs, ce qui veut réellement signifier l'enseignant des Juifs. C'était un enseignant réputé, un des principaux enseignants. Il vint de nuit voir Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Affirmant par là que tout le monde reconnaît les pharisiens, les sadducéens, tout le leadership d'Israël, même s'ils avaient rejeté et crucifié Jésus, personne ne réfutait ses miracles. D'accord? Jamais. Ils ne refutaient jamais ses miracles. Ils étaient irréfutables, ils étaient évidents, ils étaient partout. Ils se faisaient tous les jours, ils les opéraient partout. Ils étaient irréfutables. Ils n'essayaient pas de les renier, mais voici le témoignage de celui qui parle pour tous et qui dit « Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est évident. Les miracles, la puissance sur les démons, la puissance sur les infirmités, la puissance sur la mort, la puissance sur la nature. Mais Jésus savait qu'il y avait une question dans le cœur de Nicodème que Nicodème n'avait pas exprimée, et donc il est passé directement au cœur du sujet, et il dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Maintenant, il comprend que Jésus utilise une métaphore. Tu dois naître de nouveau. Tu dois repartir à zéro et tout recommencer. Il ne s'agit pas d'une avancée religieuse, il s'agit d'une naissance. Aussi, il demanda « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment puis-je le faire? Comment retourner au commencement? Je suis âgé maintenant et je fonctionne dans ce légalisme depuis des années, toute ma vie. Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et il utilise une métaphore. Il comprend. Il ne veut pas dire naître physiquement. Il ne blague pas. Jésus dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. » Et il emprunte les termes d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Le passage de la Nouvelle Alliance. « Tu dois être lavé d'eau, purifié et recevoir un cœur nouveau pour remplacer le cœur de pierre. » Donc, il tient le langage d'Ézéchiel à un docteur de l'Ancien Testament. Il te faut une expérience de la Nouvelle Alliance. Tu as besoin ce dont même Jérémie 31 parle. Tu dois être purifié, tu dois avoir un cœur nouveau, et l'Esprit doit être planté en toi avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est la Nouvelle Alliance. Tu dois être régénéré, tu dois être transformé, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Tu es chair et tu vas continuer d'être chair jusqu'à ce que tu rentres au commencement, jusqu'à ce que tu naisses de nouveau spirituellement par le Saint-Esprit. Alors seulement pourras-tu entrer dans le royaume de Dieu. Alors ne sois pas surpris que je t'ai dit que tu dois naître de nouveau. Maintenant, à ce moment précis, vous direz à quelqu'un « Je vous dis, vous devez naître de nouveau. » Et si quelqu'un vous disait « Comment le fait-on ? » Vous répondrez « Oh, faites cette prière, n'est-ce pas ? » Répétez cette prière après moi. Vous devez juste vous repentir et croire. Qu'avait dit Jésus à Nicodème? Une chose vraiment étrange. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un vous abordait et disait « Je pense qu'il me faut naître de nouveau. Je pense que nous devons sortir de cette vie charnelle. J'ai besoin d'une nouvelle naissance. J'ai besoin d'un cœur nouveau. J'ai besoin d'un esprit nouveau. Que dois-je faire ?» Lui direz-vous « Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il vient et s'en va à sa guise sur qui il veut. Quoi ? Tant de formules d'évangélisation ? Tant de « faites cette prière » ? C'est Jésus. » Et ce n'est pas un novice qui ne dispose pas de techniques d'évangélisation. C'est Jésus qui parle ici. Ce qu'il dit à Nicodème, c'est « Je veux juste te dire que tu dois naître de nouveau. Tu dois naître. » Anoten, littéralement d'en haut. Et tu n'es pas au contrôle du temps où cela se produit. Quelle affirmation! Je reconnais votre besoin. Je reconnais aussi que vous n'êtes pas responsable de son accomplissement. Waouh! L'Esprit vient et va à sa guise. Et voilà pourquoi les gens naissent par l'Esprit. Vous dites, ce pourrait être le passage le moins considéré de la Bible sur la souveraineté divine sur le salut. Waouh, la souveraineté divine, ce n'est pas discutable. Mais regardons un peu plus loin dans ce chapitre, d'accord? Allons au verset 27. Jean-Baptiste est aussi calviniste. Il ne le savait pas parce que très peu de baptistes le sont. Écoutez ce que dit Jean, verset 27. Un homme ne peut recevoir quoi? Qu'est-ce qui suit? Que ce qui lui a été donné du ciel. Vous ne pouvez rien recevoir à moins que cela vous soit donné d'en haut. Pourtant, Jean le savait, et Jean est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. La souveraineté divine absolue dans le salut est une œuvre divine. C'est une œuvre faite par le ciel. Retournons maintenant au verset 15. Êtes-vous prêts? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quoi? Que fait ce quiconque ici? Quiconque croit aura en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi les gens sont-ils jugés et vont-ils en enfer? Parce qu'ils ne sont pas élus? Non, parce qu'ils ne croient pas. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Descendez au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère éternelle de Dieu s'abat sur les gens parce qu'ils ne font pas quoi? Parce qu'ils ne croient pas. Croire. Vous est-il difficile de l'assimiler? Parfait. Parce que vous devez avoir cette difficulté. Cela signifie que vous comprenez les deux. Ne trouvez pas une position intermédiaire qui efface ces deux vérités. Regardons dans Jean 6. Surgeon avait été critiqué pour avoir prêché ce message et quelqu'un lui a dit: « Pourquoi ne prêches-tu donc pas qu'aux élus ?» Il répondit: « Eh bien, si vous pouviez descendre leur chemise afin que je voie s'ils ont un « e » cacheté sur leur dos, je le ferai. » Jean 6. Et nous voici de retour sur ce point que nous avons commenté. Jean 6 au verset 37. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » C'est une affirmation absolue, n'est-ce pas? Et nous revoilà, cela descend du ciel. L'œuvre de l'Esprit, le dessein du Père... Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, si sa volonté est de me donner toutes ces personnes, je vais certainement les recevoir. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Alors, je ferai ce que le Père veut que je fasse, et ce qu'il veut que je fasse, c'est recevoir les personnes qu'il me donne, que je les garde et les ressuscite pour la gloire éternelle. Et puisque je suis venu faire la volonté du Père, c'est exactement ce que je ferai. Plus bas, au verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. L'avez-vous compris? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. N'est-ce pas cela notre sécurité? Que Christ nous garde pour la gloire éternelle, il ne perdra aucun d'eux. Retournez au verset 35. Au milieu même de ce passage, entre ce que je viens de vous lire ou quelque part à côté de ce que j'ai lu. Verset 35. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. D'une part, nul ne peut être sauvé à moins que cela ne lui soit donné du ciel par mon Père, à moins d'être choisi par le Père, à moins que l'ordre n'ait été arrêté depuis l'éternité passée. Le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Nul ne sera sauvé sans l'œuvre souveraine de Dieu, et pourtant, je suis le pain de vie, dit Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Regardez le verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, celui qui croit. Verset 57. comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » La somme de ceci se trouve au verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. » Ces deux choses sont mélangées, sans aucune explication. Il faut que vous croyiez, vous devez croire. Vous êtes condamné parce que vous ne croyez pas. Pourtant, vous ne pouvez croire à moins d'être appelé et attiré par mon Père. Et, les amis, je vous promets que je ne peux rien faire de mieux que de vous montrer ce que disent les Écritures. Je peux vous prêcher avec chaque once de passion que j'ai dans mon cœur sur les gloires de la doctrine de l'élection souveraine. Et je peux prêcher avec la même passion sur les réalités de la doctrine de la responsabilité humaine. Je peux vous dire qu'à moins de croire, vous mourrez et vous irez en enfer. Si vous croyez, vous ressusciterez pour entrer au ciel. Et je peux vous dire que vous devez vous repentir et vous devez croire, et c'est exactement ce que dit la Bible. Mais je peux aussi dire que c'est l'œuvre souveraine de Dieu. Il y a d'autres passages des Écritures qui font ceci, et j'essaie juste de vous montrer que la Bible ne cherche pas à l'expliquer. Elle mélange. Il y a une belle illustration dans Actes 2. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Pensez-vous que le diable voulait la crucifixion de Jésus? Non. Non, le diable ne voulait pas qu'il soit crucifié. Le diable est venu vers lui et a dit, « Écoute, tu peux échapper à la croix. Prosterne-toi, juste devant moi, je te donnerai les royaumes du monde, n'est-ce pas ? » Le diable ne voulait pas de Jésus à la croix. Le diable le tentait dans le jardin, n'est-ce pas ? Que cette coupe s'éloigne de moi. Qui voulait plus voir Jésus à la croix ? Dieu, parce qu'il était l'agneau de Dieu. Il était l'agneau de Dieu. Homme, Israélite, dit Pierre le jour de la Pentecôte. Sa théologie était tellement juste. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Des hommes impies ont fait l'œuvre de Dieu. Livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Israël était-elle coupable? Vous feriez mieux de le croire. Jésus, le dernier jour de la semaine de la Passion, regarde le temple et dit « Il ne restera pierre sur pierre, n'est-ce pas? Ta maison est laissée dans la désolation. Le jugement est venu sous la forme des Romains en 70 après Jésus-Christ. Des centaines de milliers de Juifs ont été massacrés. Ils furent massacrés au courant des années qui suivirent dans 985 villes du territoire d'Israël. Les Romains laissèrent derrière eux des cadavres. Le jugement s'est fortement abattu, et vous devez comprendre que le jugement contre Israël et son rejet du Messie se poursuit même de nos jours. Je ne sais pas ce que vous pensez quand vous voyez la nation d'Israël aujourd'hui. Ce n'est pas une nation qui a la faveur divine. C'est une nation sous le coup du jugement divin. Et elle demeurera sous le jugement divin, en ayant les yeux fixés sur lui qui est transpercé, et en faisant son deuil, en tant que fils unique, et selon les dires de Zacharie, une fontaine de purification sera ouverte sur Israël. Mais, jusqu'à ce que cela arrive, cette nation est sous le jugement. Et c'est précisément le même jugement qui plane sur tout pécheur non racheté pour avoir rejeté Jésus-Christ. Dans le cas de la crucifixion de Christ, ils avaient fait la volonté de Dieu. Pourtant, c'était des hommes impies qui furent tenus pour responsables de leurs actes. Je suis tellement à l'aise avec le mystère divin parce qu'il signifie que Dieu est bien plus grand que moi et ses voix ne sont pas mes voix. Dans Actes au chapitre 4 et au verset 27, il est écrit « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. Tout le monde s'est impliqué dans la mort de Christ, n'est-ce pas? Ce n'était pas que les Juifs. Il est dit ici, c'était Hérode, Ponce Pilate, les gentils, le peuple d'Israël. Si quelqu'un vous pose un jour la question de savoir qui est coupable de la crucifixion de Christ, montrez-lui ce verset. Mais regardez ceci, verset 28. Pour faire tout, ceci s'adresse à Dieu, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Ici encore, vous voyez la responsabilité totale dans le cas d'Hérode, dans le cas de Ponce Pilate, dans le cas des Gentils, les Romains, et dans le cas des Juifs, du peuple d'Israël. Et pourtant, ils accomplissaient l'œuvre divine et souveraine. Ce sont des exemples de cohérence des Écritures en assemblant ce genre de choses sans jamais essayer d'expliquer l'inexplicable. Vous souvenez-vous de l'histoire de Judas? Était-il responsable de ce qu'il avait fait? Dieu avait-il ordonné qu'il le ferait? La prophétie se trouve même dans l'Ancien Testament. « Mon ami proche lèvera le talon contre moi. » Et Jésus dit pourtant, « L'un de vous est un diable. » Et Jésus dit qu'il mourra et il ira de son côté. Nous devons comprendre ceci. Il incombe à chacun de nous la responsabilité de croire. Et nous sommes responsables de notre décision de croire ou de ne pas croire. Il y a des conséquences éternelles. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de vivre notre vie chrétienne et pourtant, inexplicablement, toute œuvre bonne est le produit du Saint-Esprit et toute mauvaise œuvre est notre produit. D'autre part, nous devons aussi persévérer dans la foi. Mais, en même temps, nous sommes gardés par la puissance de Dieu dans les mains de Christ. C'est profond, ça. Et c'est constant dans toute la Bible. Et je célèbre ceci. Écoutez, je suis dans cette affaire depuis très longtemps, et plus je vis, plus je me réjouis de ces doctrines que je ne peux résoudre parce qu'elles parlent de la grandeur de Dieu. Bien, c'était l'introduction, et durant la prochaine heure, je vais vous conduire dans Romains 9, 10 et 11. Nous devions arriver jusqu'à Paul, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes supposés faire. Nous avons parcouru Jean, Luc et Ésaïe. Nous allons donc passer à Paul durant la prochaine heure. Et vous allez aimer ce que nous allons voir dans Romains 9, 10 et 11, certains des passages les plus controversés de la Bible.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.